Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui aussi nombreux et nombreuses. Merci également à la librairie Les Volcans et en particulier à l'ENAIC pour l'organisation de cette rencontre et à Sandrine et Blanche pour avoir accepté l'invitation. Donc très rapidement je me présente, Agathe Ripoll, je suis journaliste pour lesnouvellesnews.fr. Donc Les Nouvelles News c'est un journal en ligne avec un regard féministe sur l'actualité, dont le but est de promouvoir l'égalité dans le contenu de l'information et donc dans la société. Parce qu'on sait très bien que ce que les médias infusent dans nos têtes influence nos choix et nos comportements. Voilà, donc si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour vous présenter donc cette magnifique BD, Histoire de France au féminin, voilà, donc scénarisée par Sandrine Mirza et illustrée par Blanche Sabat. Voilà, donc cette bande dessinée, elle redonne aux femmes toute leur place dans l'histoire de France. Donc il y a un important travail de recherche historique qui a été fait, avec des dessins très précis dans leur représentation, mais c'est également aussi porté avec humour et légèreté. Alors rapidement, donc Sandrine est historienne et...
Oui. Bah oui, non, voilà. Donc bonjour à tous. Voilà, c'est ça. Je suis historienne de formation et maintenant j'écris de la vulgarisation, comme on dit, mais qu'on espère de très bon niveau pour parler à tous les publics. Voilà, les ados, les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, tout le monde.
D'accord. Donc il y a plein de livres jeunesse qu'on peut retrouver au rayon jeunesse des volcans. Des
voilà, c'est ça.
Notamment chez Casterman, l'histoire de France, tout court.
Pas ouais, c'est ma première histoire de France en BD. Donc c'est un autre livre pour un âge plus petit.
D'accord. Et donc Blanche, qui est autrice BD et activiste féministe, elle a publié notamment le livre, enfin la BD Mythes et Meufs, tome 1 et tome 2, qui est sorti, je crois, le 2 en septembre dernier, quelque chose comme ça. Voilà, donc dedans, elle revisite les héroïnes passées et présentes à la lumière des nouvelles pensées féministes. Et vous la connaissez peut-être aussi pour son compte Instagram, sous le nom de La Nuit Remue Paris, voilà, où elle fait des super dessins féministes, souvent en lien avec l'actualité. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, la première question c'est comment vous vous êtes rencontrés et comment est née l'idée de cette bande dessinée et raconter l'histoire de France mais au féminin.
J'y vais. Donc en fait, on a été présentés par notre éditeur. Donc moi je travaillais déjà depuis pas mal de temps chez Casterman et à un moment donné... On s'est rencontrés et ils nous ont demandé un petit peu si on aurait envie de travailler ensemble, est-ce qu'on pourrait faire. Et comme Blanche est dessinatrice, qu'elle fait déjà des bandes dessinées, on s'est dit que ça n'existait pas. En fait, le constat aussi avec Casterman, c'est qu'il n'y avait jamais, il n'y a aucune autre bande dessinée sur l'histoire des femmes de la préhistoire à nos jours. Il y avait déjà des portraits qui existaient, des livres de portraits qui sont très bien, mais il n'y avait pas d'histoire de la condition féminine à travers les âges. Et donc aussitôt qu'on a vu qu'il y avait un manque finalement justement pour parler au plus grand nombre, et ben on est parti sur le projet, on a dit OK.
Rien à ajouter.
Non, juste que moi, on m'a contactée évidemment pour tout ce qui était aspect graphique. Donc, mettre en image ce projet quand même super ambitieux. Et moi, tout de suite, au début, ça m'a fait très peur quand on m'a dit « Oui, tu voudrais pas faire une histoire de France au féminin, c'est le projet qu'on a chez Casterman. » Et tout de suite, j'ai dit « Je peux pas l'écrire, j'ai pas du tout les connaissances. » On m'a dit « Non, t'inquiète pas, on a quelqu'un en tête pour le scénario. Est-ce que tu veux bien le dessiner ?» Du coup, ça m'a rassurée énormément parce que moi, j'aime bien écrire mes BD aussi, mais celle-là, je savais que j'avais absolument pas le degré de connaissance et de recherche que nécessitait l'exhaustivité historique, que nécessitait un projet comme celui-là. Et ce qui m'a vraiment énormément convaincue, parce qu'évidemment, moi, je faisais confiance à Casterman, j'avais jamais rencontré Sandrine, j'étais en mode, bon, si vous avez fait plein de BD ensemble déjà et que vous portez garante, évidemment, je vous fais confiance, etc. Mais Sandrine, elle m'a envoyé un tout premier, tu te souviens, tableau Excel.
Oui, aride.
Ouais, vraiment, au début, l'album était classé, mais je vous parle de ça, c'était en 2021, hein, donc c'était vraiment la genèse du truc. Et l'album était classé par période rouge et période verte. Et les périodes période rouge, c'était période de recul des droits des femmes et de où elles étaient les moins bien loties, on va dire, et période verte, c'était là où il y avait des avancées. Et il m'est apparu que dans le découpage que Sandrine faisait, c'était l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de considérer, nous, dans l'histoire de France lambda, on va dire, classique, comme les périodes rouges et les périodes vertes. C'est-à-dire qu'on va presque toujours représenter le Moyen-Âge comme une période obscurantiste, sinistre, où on stagne au niveau technologique et tout, et la Renaissance comme plutôt une période verte de redécouverte, des cartes, des continents, des textes philosophiques antiques, etc. Et on voit qu'en fait, si on prend ça du point de vue des femmes, c'est inversé. Et il se passe la même chose avec Napoléon, il se passe la même chose avec Empire romain versus conquête des Gaules. Et donc ça, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un changement de paradigme qui est dingue et qui est vraiment inédit. Et ça m'a convaincue encore plus que je l'étais déjà d'avoir envie de dessiner ce projet.
D'accord. Et du point de vue des recherches au niveau des archives, parce que j'imagine que bon, sur les dernières années, c'était plus facile de retrouver des archives, mais... ça remonte loin. Comment t'as pu...
Alors bon, bah ça c'est la base de mon travail et c'est une des grosses parties pour pouvoir arriver au synopsis que Blanche vient de décrire. Donc, comme vous le dites, pour les périodes les plus récentes, on commence à avoir des ouvrages assez structurés. Il y a notamment en 5 tomes Le Perrault d'Uby, l'histoire des femmes en Occident. Donc, mais nous, en remontant dans le temps, là, on s'est retrouvé avec de moins en moins. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec moins en moins d'informations directement exploitables. Donc, par exemple, si on parle du Duby Perrault, comme c'est la femme en Occident, les femmes en Occident, il ne parle pas des Gaulois. Il parle en fait des Romains, des Grecs, et il n'y a rien sur les Gaulois. Sauf que nous, c'était une histoire de France, hein, donc il fallait aussi qu'on parle des Gaulois. Et à ce moment-là, il n'y avait rien de spécifique. Donc j'ai dû aller dans des ouvrages généraux sur les Gaulois et les Gallo-Romains. Et dedans, chercher des traces des femmes, si je puis dire. Donc, on en trouve quelques-unes. Ça, c'était pour les Gallo-Romains, ou alors au Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Donc, je vais pas vous faire l'ensemble de la recherche, mais globalement, on va dans certains ouvrages spécialisés. Dans les notes de page, ils se réfèrent éventuellement à des thèses de doctorat, etc. Certaines sont publiées sur Internet, sont visibles. Et à ce moment-là, quand je veux avoir 2-3 exemples, je peux les consulter. Et c'est comme ça qu'on voit et qu'on retrouve le nom de femmes qui étaient seigneuresses, donc les femmes seigneurs d'un château, et qu'on sait qu'il y en avait pas mal vers Toulouse. Et c'est comme ça que je peux retrouver des exemples. Donc c'est long, en fait. C'est assez long. Sur les périodes anciennes, c'est assez long.
Et ça, combien de temps ça a duré? Est-ce que tu parlais de 2021 tout à l'heure? Mais tes recherches avaient commencé avant ou... Non, c'est à ce moment-là.
Non, que... à partir du moment, on a mis 2 ans. À partir du moment où on a été toutes les deux d'accord et on a commencé à signer nos contrats, et le livre est sorti le 30 août 2023. Et le livre, on a mis à peu près 2 ans complets à le faire. Donc une partie de recherche que je fais moi en amont. En fait, je commence d'abord et puis Blanche, c'est un peu en décalé. Et quand moi j'ai fini, elle, Blanche, elle continue à dessiner et faire les derniers dessins. On est un peu en décalé.
D'accord. Et toi aussi, Blanche, au niveau des illustrations, j'imagine que tu as fait un sacré travail de recherche, notamment pour les décors, les costumes en fonction des époques. Comment...
Non, en fait, j'avais des dossiers iconographiques fournis par Sandrine. C'est vraiment elle qui avait toute la recherche. Vraiment, vraiment, il faut rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Je ne suis pas allée faire de recherches supplémentaires en termes de... en termes de références graphiques, mais c'était quand même aussi un peu un travail d'assemblage, parce que Sandrine, elle me disait, il y avait des dossiers qui allaient avec chaque chapitre, et qui étaient aussi un petit peu chronologiques, c'est-à-dire que les premières images qui allaient avec le début du chapitre étaient en premier, puis tout à la fin du document, il y avait les dernières images qui clôturaient le chapitre, et c'était, ça ce tableau, c'est bien pour la coiffure, mais par contre la robe, c'est pas du tout une robe de l'époque, donc tu fais que la coiffure. Et c'est Catherine de Médicis, alors elle a cette tête, elle a cette coiffure, mais par contre t'es obligé de la faire en deuil, parce que on la représente au sommet de son pouvoir que quand à partir du moment où elle est veuve, donc tu la fais en noir. Là c'est une reconstitution historique des Vikings, Donc c'est bien pour les dracars, les boucliers. Par contre, les cornes sur les casques, tu oublies, c'est un gros anachronisme. Donc il y avait un peu une espèce de patchwork un peu à faire comme ça avec certaines iconos. Après, il y a aussi la question du réalisme des dessins. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus l'iconographie dont on dispose est réaliste, c'est-à-dire que les images ressemblent à ce qu'on se figure. On a aussi pas mal de films d'époque qui viennent un peu façonner notre imaginaire de certaines périodes. Et puis quand on arrive vraiment au très récent, enfin au très récent, au siècle dernier, c'est carrément de la photo. Donc l'exigence du lectorat, elle est aussi différente par rapport à des périodes qui sont beaucoup plus anciennes, qui ont moins d'images ou qui ont une manière de représenter qui est différente, qui est typiquement plus métaphorique, plus symbolique et pas très réaliste. Et je comprenais pas aussi toujours tout ce qui était représenté. C'est-à-dire qu'à un moment, on a toute une partie sur le textile, les métiers à tisser, les différents métiers en fait exercés par les femmes en écrasante majorité, qui concernent en fait le tissu. Donc c'est le filage, le comment ça s'appelle, le tissage. C'est un mot. Attends, cardé.
Le cardage,
voilà. Bon, tous ces espèces d'étapes pour arriver à une étoffe de tissu qui est ensuite vendue sur le marché que je ne connaissais pas. Et en fait, bah voilà, il y a des rouets comme dans La Belle au Bois Dormant, vraiment, et des métiers à tisser antiques et puis du début du Moyen Âge et puis du milieu du Moyen Âge que je savais pas bien représenter et que bah certaines tapisseries sont pas non plus hyper méga limpides et bah, que j'ai dû recommencer plein de fois. Et Sandrine qui me mettait des petits commentaires, je ne comprends pas ce qu'elle fait. J'étais là, moi non plus. J'ai recopié le tableau, mais moi non plus, je comprends pas trop comment ça fonctionne cette machine. Donc voilà, c'était un peu pareil. À un moment, beaucoup beaucoup plus tard, j'ai dessiné des femmes qui bossent dans des usines de charbon et qui poussent des espèces d'énormes chariots remplis de charbon. Et spontanément, je les ai mises en combinaison. Et Sandrine qui me dit non, elles étaient en robe. Non, c'était encore une période où c'était pas possible d'avoir des habits adaptés au métier pratique qu'on faisait. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai dû lui rajouter des robes. Bon, voilà, des espèces de petits détails comme ça, parce que je sais plus si la femme avait une robe sur la photo. Il me semble qu'elle était coupée un peu avant, ou que j'ai un petit peu inventé le bas de son corps, parce que ça me semblait en fait juste spontané. Et donc, le travail, il s'est fait plutôt a posteriori. C'est-à-dire que j'ai pas recherché les images, j'ai plutôt composé à partir des images que j'avais. Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à reproduire en fait des tableaux qui sont existants. Et parce que il y a beaucoup de personnes dont on a fait le portrait, donc c'est des personnes dont on a des portraits. Donc je recopie le portrait que ces personnes soit ont fait d'elles-mêmes, pour Elisabeth Vigier-Lebrun pour le coup, qui était peintresse et qui s'est beaucoup peinte elle, ou Suzanne Valadon, ou alors je recopie les tableaux de ces personnes qui sont des artistes. Pour les montrer à voir dans leur métier. Donc, on a Rosa Bonheur qui peint un tableau, du coup, j'ai recopié son tableau, ou Berthe Morisot, qui est une des premières femmes impressionnistes à avoir sa propre expo. Et donc, du coup, il y a tout un mur rempli de tableaux de Berthe Morisot que j'ai dû dessiner aussi en dessinant Berthe à côté. Voilà, ce genre de truc que je trouve extrêmement enrichissant, en fait, parce que ça nourrit aussi mon œil à l'esthétique de toutes les époques.
D'accord, je te remercie. Alors, le choix a été fait de raconter cette histoire à travers la voix d'une grand-mère qui raconte à ses petits-enfants cette histoire de France au féminin. Et donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est dès le début, ils sont devant une affiche du 8 mars. Et le petit, il dit, je comprends pas, le 8 mars, égalité des droits, on est tous égaux, non? À quoi ça sert? Et ça m'a rappelé, notamment, je disais, Lalimi, qui à l'époque témoignait en disant que sa petite fille ne se considérait pas spécialement féministe, parce qu'elle pensait que l'égalité des droits était acquise et qu'elle voyait pas trop à quoi ça servait. Donc justement, cette BD, c'est aussi une façon de sensibiliser les plus jeunes à l'histoire et leur montrer que l'évolution, en fait, que les droits qu'on a actuellement, ils sont pas forcément tous acquis, hein, on le voit tous les jours, et que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Est-ce que vous pensez justement que que la jeunesse est consciente de tout ça ou est un peu plus insouciante?
Alors, on n'a pas d'études particulières sur le sujet, donc j'ai envie de dire ça dépend.
Disons par rapport au retour que vous pouvez avoir, parce que c'est une BD qui s'adresse donc, oui, à un jeune public, mais aussi aux adultes, parce qu'on apprend énormément de choses.
Ce qu'on peut dire, ce qui vous a pas échappé, c'est qu'il y a un réel mouvement général de prise de parole des femmes et une parole qui est entendue, une écoute, parce que ce qu'on dit tout au long du livre, c'est que les femmes ont toujours pris la parole, beaucoup. Les premières femmes dont on fait le portrait, une des premières, c'est Christine de Pizan. et Christine de Pisan, dès le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, elle écrit La Cité des Dames. Et elle crie justement l'injustice et elle essaye justement de dire tout ce que les femmes vivent et l'injustice et les droits qui sont bafoués, etc. Bon, et on voit bien que ça a pas, elle en tout cas n'a pas du tout été écoutée. Aujourd'hui, on voit bien que les femmes, donc finalement, donc c'est pour dire que cette parole qui est moderne, 2024, mais dès le Moyen-Âge, la parole était déjà quasiment aussi moderne, bon, avec un peu des différences sur la religion, etc. Mais globalement, très moderne déjà. Aujourd'hui, là, il y a vraiment une écoute. Et la preuve, on peut le dire, hein, c'est que ce livre, celui-ci, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais celui-ci marche très très bien. C'est-à-dire qu'il est sorti le 30 août et on en a déjà vendu plus de 25 000. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont très intéressés. Après, nous, c'est ce qu'on voit aussi. Peut-être qu'on a du mal à en toucher d'autres, mais comme on les voit moins. Mais moi, je passe dans les écoles, je passe dans les collèges, les lycées, etc. Blanche, elle va le dire, elle fait des salons, enfin beaucoup d'autres manifestations, hein, des actions militantes, etc. Moi, je vais plus dans les écoles, on se partage le travail. Et du coup, moi, dans les écoles, souvent, je parle justement à des classes qui découvrent le livre et qui n'ont pas forcément entendu parler. Mais bon, moi, j'estime que c'est aussi mon rôle d'y aller et de leur présenter. Donc, tu peux dire, toi, toutes tes actions aussi.
Bah, déjà, je pense que... Et c'est la fille de Gisèle Halimi qui disait ça, qu'elle n'était pas très féministe.
La petite fille.
La petite fille, mais ça lui fait quel âge à peu près? Parce que Gisèle Halimi, elle est décédée à presque 100 ans, je crois. Et
il me semble... Gisèle Halimi est décédée en 2020.
Oui, mais à 100 ans.
À 100 ans,
à mon avis, oui, je crois qu'elle avait bien 98 ans.
Je ne sais pas quel âge avait sa petite fille à l'époque, mais je pense que quand elle a dit ça, elle devait être adolescente ou je crois que c'était quelque chose comme ça.
Mais je pose la question parce que j'ai l'impression que la génération de ma maman, par exemple, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas de la génération de la petite fille de Gisèle Halimi, je pense que je suis un peu après. La génération de ma maman, c'est celle des années 80-90. Enfin, je veux dire, qui a été adulte dans les années 80-90, et donc du coup, qui a subi un énorme backlash post-mouvement 60-70, qui a été un énorme essor féministe. Et il y a eu un espèce de retour de bâton de dingue qui s'est articulé, et c'est bon, Suzanne Faludi qui le dit dans son bouquin Backlash, et Mona Chollet qui le reprend aussi dans Sorcières, où en fait les deux arguments qui ont été le plus répandus à ce moment-là, et qui étaient complètement faux, c'était le combat est gagné. Donc, ça y est, l'égalité est atteinte. Déjà, c'est faux. Et depuis que l'égalité est atteinte, tout va mal. Les femmes divorcent, les gens sont malheureux. Depuis que les femmes travaillent, il y a une augmentation de la précarité. Il y a plus de familles qui sont séparées. Ça a été présenté comme déjà une victoire, mais une victoire qui avait des conséquences tragiques sur la société. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas été un peu mieux avant? Et finalement, être féministe, c'est même toi qui me le disais, Sandrine, que féminisme, limite, c'était un peu ringard, quoi. C'était un peu genre, oh là là, c'est bon, quoi. On a tout acquis, on est indépendante, on est autonome, etc. Et moi, j'ai dû faire un travail de pédagogie auprès de ma maman, alors qu'elle était beaucoup plus proche de l'époque ou des générations où les droits ont été conquis, en fait. Et ça paraît complètement paradoxal. Et donc, du coup, pour moi, il y a eu un vrai truc post-MeToo d'une génération qui s'est demandé aussi quelle marche on avait loupée pour être dans cette espèce de backlash, de nier qu'on avait besoin du féminisme alors qu'il y avait 150 féminicides à l'année. Enfin, je veux dire, quand on a commencé à faire des actions de collage contre les féminicides dans Paris, dire aux gens « il y a un féminicide tous les deux jours », personne ne nous croyait. Même moi, je veux dire, quand je l'ai appris, j'avais 23 ans quand j'ai rejoint les collèges, j'étais pas du tout au courant de cette statistique, j'étais pas au courant de cette donnée. Un mec qui frappait sa femme, un conjoint en plus, donc qui frappait sa femme jusqu'à la tuer, pour moi, c'était un fait divers, comme dit « Préparez-vous pour la bagarre, Rose Lamy », c'était un truc ultra marginal qui arrivait peut-être une fois ou deux, et c'était l'œuvre d'un déséquilibré qui avait rien de systémique ou de sociétal, en fait. fait, on n'avait pas politisé ce problème.
C'est aussi ce que les médias...
Bien sûr, mais c'était, c'était ce qui était véhiculé. Et le premier réflexe, quand il y avait une femme qui était battue depuis des années, c'était de se demander pourquoi elle partait pas. Le terme consentement, personne ne l'employait. Le terme emprise, ça n'existait pas. C'est des mots qu'on a dû exhumer, inventer. Féminicide aussi, c'est un mot qu'on a inventé. D'ailleurs, le MLF avait théorisé... c'est Françoise Daubonne, elle parle de sexocide dans un tout petit essai sorti en 99 qui s'appelle Le sexocide des sorcières. Et un tout petit peu avant, le MLF avait parlé de génocide. Donc comme quoi, en fait, il y a eu, c'est ce que tu disais, il y a eu des tentatives, il y a eu de l'innovation, même au niveau du vocabulaire et tout. Et puis finalement, on ne s'était pas emparé de ces données et c'était un petit peu tombé dans l'oubli. Et donc du coup, il y a eu une espèce de travail de réactivation de la pensée féministe après une grosse période de backlash. Et donc du coup, on se retrouve à avoir des générations peut-être plus récentes qui éduquent l'espèce de génération, entre parenthèses, entre le MLF et la mienne, qui n'a pas reçu en héritage cette histoire féministe. Et je vous ai fait cette petite leçon d'histoire pour dire que du coup, c'est notre ouvrage, il s'inscrit là-dedans. Pour que justement, on n'ait plus une génération qui soit amnésique et qu'on n'ait plus besoin de réactiver cette mémoire tous les 10-15 ans, parce que les forces à l'œuvre pour nous contredire, elles sont très puissantes et elles sont très malines, elles sont très protéiformes, exactement, et très bien organisées. Et donc du coup, avec une BD comme celle-là qui perdure et qui s'installe dans le paysage littéraire, on n'a pas en fait à réinventer un peu l'eau chaude tous les 10-15 ans. Et alors après, est-ce que la jeunesse est plus mobilisée? Comme le disait Sandrine, il y a une vague féministe quand même qui est genre une maxi déferlante depuis MeToo, depuis 2017, que plus personne ne peut ignorer, pour autant. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes n'est pas méga optimiste. Il y a toujours un homme sur quatre. Alors jeunesse, ça dépend ce qu'on entend par jeunesse, mais là c'est les 18-35 ans. C'est pas non plus très vieux. un homme sur quatre pense toujours, entre 18 et 35 ans, que quand une femme dit non, en fait c'est un peu oui. Que imposer son opinion par la violence, c'est acceptable dans je sais pas combien de pourcentage des cas. Voilà, ça c'est des données qui font un petit peu froid dans le dos. Et ce qu'on observe de plus en plus, et je crois que la Déferlante avait un article sur ce sujet il y a pas longtemps, c'est que en fait on a le vote aujourd'hui est de plus en plus genré. C'est-à-dire que les femmes, toutes générations confondues, sont à gauche, et les mecs, toutes générations confondues, vont aller plus à droite, y compris les plus jeunes. Donc il y a un vrai enjeu, hyper intéressant à analyser. Moi, j'ai envie qu'on ramène un petit peu les mecs de notre côté aussi, qu'ils comprennent, et c'est ce qu'on essaie de faire avec le petit personnage de Jules, que être féministe, ça leur fait gagner des droits, ça leur en ôte pas. Ça leur ôte de la domination, et que la domination, c'est moche pour tout le monde. Et que d'ailleurs, la gauche, ça recouvre pas que le féminisme, c'est aussi l'écologie, c'est aussi la justice sociale. Et bon, si on pouvait s'apercevoir de ça tous ensemble, ce serait pas mal. Et je termine sur ce point, c'est aussi ce que dit... Salomé Saké, c'est que convaincre que les jeunes, ça ne suffit malheureusement pas, car nous les jeunes, nous sommes en minorité sur cette planète. Et même si tous les jeunes votaient à gauche en France, on ne gagnerait pas les élections. Je sais, c'est badant, mais c'est vrai. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est pas de faire une guerre des générations, c'est vraiment d'essayer d'emporter l'adhésion de tout le monde de manière transversale, en ayant des arguments percutants et pas en prétendant avoir mieux compris que d'autres.
Merci. Ce que j'ai bien aimé aussi à la lecture de la BD, c'est qu'on se rend compte que les femmes, elles ont toujours eu cette volonté d'émancipation, et ce bien avant l'invention du mot féministe, qui je crois qui a été employé par Hubertine Auclair pour la première fois, normalement.
Ouais, tout le monde n'est pas archi d'accord, mais on va dire que c'est Hubertine Auclair.
Voilà, oui. Voilà.
En tout cas, elle l'a vraiment popularisé, employé, voilà.
Voilà, pour parler justement des militantes des droits des femmes, elle a employé le mot féministe en 1882, chose comme ça.
Voilà.
Voilà, dans ces eaux-là.
Ouais. D'ailleurs, pardon, je t'interromps parce que j'avais lu, tu me dirais, Sandrine, si tu avais lu la même chose, qu'à la base, féministe, c'était un adjectif qu'on accolait aux hommes qui avaient un comportement jugé trop féminin.
C'était péjoratif.
C'était péjoratif. Un féministe, c'était un mec qui était un peu trop efféminé, quoi.
Voilà. Et elle l'a récupéré. Et voilà, il y a une histoire, en effet, de récupération de ce qui se voulait une insulte, hein, quand même.
De toute façon, de nos jours, même tout ce qui est un peu féminin est considéré encore comme inférieur. On va parler de
femmelettes,
voilà. Alors qu'une fille qui va faire un peu comme les garçons va être mise sur un piédestal, alors que les garçons vont plutôt être infériorisés. Et donc, du coup, vous avez fait la bande dessinée d'une manière chronologique, et j'ai trouvé ça super en fait, parce que ça permet vraiment de voir l'évolution et l'évolution et les régressions aussi, parce que comme tu disais, il y a eu des périodes qui étaient quand même beaucoup plus, un peu plus favorables aux femmes que d'autres, et d'autres comme par exemple le siècle soi-disant des Lumières, ça a été un siècle totalement obscur en fait pour les femmes. C'est surtout après le Moyen-Âge, où justement, enfin, vous allez nous en parler un petit peu plus, que je trouvais cette période du Moyen-Âge intéressante, parce que les femmes avaient quand même beaucoup de... Elles travaillaient beaucoup plus, elles avaient... Elles occupaient, voilà, plus de fonctions que par la suite.
Oui, bah, pour résumer, je pense que tout le monde le sait, le Moyen-Âge, c'est très long, hein, c'est 1000 ans. Donc, en fait, il n'y a pas... C'est au 19e siècle que les historiens ont décidé de faire un découpage de l'histoire. Et ils ont appelé cette période Moyen-Âge. Donc, comme vous l'entendez même à l'oreille, c'est un peu bizarre. Et ça veut rien dire, puisque en fait, le Moyen-Âge, il y a du haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge au milieu et du bas Moyen-Âge. Et ça a beaucoup varié en 1000 ans. Donc, bon, pour faire court, au début du Moyen-Âge, les femmes ont plutôt des droits. Donc, ce sont les mérovingiennes, les carolingiennes, avec une tradition des Francs. Donc le peuple qui venait de Germanie, d'Allemagne, pour faire court. Et ces peuples-là font passer le sang, le clan, avant le sexe. Donc par exemple, une famille va toujours favoriser son clan. Et s'il n'y a pas d'homme, parce qu'évidemment, ils ne sont pas quand même féministes, hein, donc ils essayent d'abord que ce soit l'homme. Mais bon, s'il n'y a pas d'homme, ils vont, plutôt que de passer à un autre clan, là, ce n'est pas possible, ils vont passer à une femme. Du coup, puis comme ils font beaucoup, ils vont à la guerre, ils font des tas de choses, les femmes se retrouvent à la tête des seigneuries, et c'est très bien vu. Et quand Charlemagne part lui-même faire des campagnes, c'est sa femme, enfin une de ses femmes, s'il y en avait plusieurs, qui a les rênes de l'Empire, etc. Donc ça passe bien. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Moyen-Âge, les femmes vont perdre des droits et beaucoup se plaindre. Donc j'ai parlé de Christine de Pizan, et on va arriver à la Renaissance. Alors, on va tout de suite faire un sort à la Renaissance. Pourquoi, à ce moment-là, il y a une très grosse régression? Parce que, comme vous le savez, la Renaissance, on trouve ça super. C'est la redécouverte de l'Antiquité, la redécouverte des grands penseurs de l'Antiquité et des philosophes de l'Antiquité, notamment des Grecs et des Romains. Et il se trouve que ces grands penseurs et grands philosophes étaient très misogynes. Et celui qui était préféré à la Renaissance, c'était Aristote. Et Aristote, eh ben c'est une horreur, hein, du point de vue de la condition féminine, puisque lui déclare qu'une femme est un embryon masculin non fini. Voilà. Et donc, et comme en fait toute cette fin de Renaissance, c'est la montée des universités, que les universités à cette époque-là, les professeurs comme les élèves sont des clercs, hein, c'est-à-dire des religieux, les femmes sont interdites d'université, c'est que des garçons. Et comme ils sont nourris de cette culture, alors à la fois chrétienne, puisqu'ils sont clercs, et donc cette culture chrétienne est également misogyne, en disant que la femme est seconde, qu'elle est née de la côte d'Adam, que Ève est une pécheresse, que les femmes sont diaboliques, voilà. Il y a même, je crois que c'est Odon de Cluny qui dit que la femme est un sac d'ordures. Donc, vous voyez, c'est très sympathique. Donc, eux sont nourris avec ces paroles... Ces paroles, comment dire, des religieux. Et là-dessus, hop, on va remettre donc les Grecs et les Romains. Et donc, pour la femme, bah, c'est une catastrophe parce que il y a aussi la théorie des humeurs. Hein, et cette théorie des humeurs dit que la femme, en fait, et alors je crois que c'est froide et humide. Et donc, ils en déduisent que du coup, elle est molle, que son cerveau est mou, que c'est pour ça qu'elle est inconstante, qu'elle ne peut pas prendre de décision. Et donc, ces QFD, c'est pour ça que c'est un sexe faible, à qui, en plus, comme son sexe est faible et que son esprit est mou, elle va être très facile à duper par le diable. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sorcières. Enfin, ces QFD, hop, on arrive direct, elle ne sait pas prendre de décision, elle se fait emberlificoter par le diable. Et donc, c'est la chasse aux sorcières. C'est le point culminant, c'est pendant la Renaissance. Donc, avec évidemment des femmes qui sont torturées, tuées, surtout dans le nord de l'Europe. Donc c'est un peu la catastrophe. Voilà pour la Renaissance.
Bon.
Alors je vais quand même juste, je peux juste vous lire qu'il y a quand même des femmes. Que vous entendiez une femme de la Renaissance qui est Nicole Estienne.
Oui, elle est là, juste là.
Et Nicole Estienne, donc évidemment les femmes ne se sont jamais laissées faire, hein, il ne faut pas penser ça. Alors Nicole Estienne, qui était la fille d'un imprimeur, donc une intellectuelle, dit Ainsi, de on cite des phrases exactes. Donc elle dit « Ainsi, de tous côtés, la femme est misérable, sujette à la merci de l'homme impitoyable qui lui fait plus de maux qu'on ne peut endurer. » Donc à pas mal de moments, un peu plus tard, au moment de Louis XIV, il y a les précieuses. Donc là, on verra si on en reparle, mais bon, elles sont moquées, mais en réalité, elles essayaient d'avoir la parole, elles essayaient de prendre la parole et de faire valoir leurs idées. Et elles disaient, prendre mari, c'est apprendre à haïr. Donc c'est pour vous dire que, voilà, elles étaient quand même extrêmement remontées. Hein.
Mais il y a un ecclésiastique aussi, je ne sais plus qui, je crois que c'est au tout début du Moyen-Âge, mais je suis pas sûre, peut-être que c'est de la Renaissance, tu vois, et que je me trompe, mais quelqu'un qui dit, donc le truc du sac d'ordures, je l'avais entendu, mais qui dit aussi, que les femmes cachent leurs vices sous des atours, évidemment, très séduisants, mais que si on ouvrait à l'intérieur pour voir, on découvrirait qu'un tas d'excréments.
Oui, bah, je crois que c'est le même Odon.
Ah, c'est le même, ok,
J'ai l'impression que, ils sont peut-être plusieurs, il y a peut-être un groupe, mais, j'ai celui-là en tête, mais c'est les abbés de Cluny. Il y en a eu plusieurs et a priori ils étaient très très misogynes. Il y avait un truc là. Et donc ils étaient plusieurs.
Un petit groupe. Alors souvent dans les livres d'histoire ou même quand on parle d'histoire au féminin, souvent c'est des héroïnes, des pionnières qui sont mises en avant. Et moi ce que j'ai aimé dans votre BD, alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ou pas encore, ça va pas tarder. c'est qu'il y a aussi beaucoup d'anonymes au final, toutes ces femmes à qui on doit beaucoup et qui ont agi. C'était important ça pour vous de les mettre en valeur?
Ouais, vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de livres récemment, il y a eu un énorme engouement pour les premiers accomplissements, les pionnières, les premières à avoir fait le tour du monde, à avoir inventé tel truc, à avoir battu tel record, et même si c'est super important d'avoir ces modèles qui sont très inspirants parce qu'ils nous permettent de comprendre que les femmes sont capables de faire tout ce que les hommes peuvent faire globalement, on voulait pas que dans notre BD, nos lectrices ne puissent pas se mesurer à leur degré d'extraordinaire, en fait. Et qu'on mérite d'avoir une histoire, même sans être double prix Nobel comme Marie Curie, ou même sans être la première femme à être entrée à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Académie Royale de Peinture, comme Elisabeth Vigée-Lebrun. En fait, on a droit de citer... juste parce qu'on a le droit d'exister. Et on n'a pas besoin d'être absolument extraordinaire, exceptionnel pour avoir le droit d'exister. Et ça, je pense que c'était important aussi parce que y a cette espèce de phrase aussi qu'on dit beaucoup aux personnes racisées ou aux personnes en minorité de genre, tu dois en faire deux fois plus pour avoir moitié moins parce que le monde est injuste. Mais en fait, moi, je veux me départir de cette croyance-là, en fait, qu'on doit toujours redoubler d'efforts pour prouver qu'on n'est pas inférieur. Alors qu'en fait, de base, si on suit les préceptes de notre pays, de notre démocratie, on est censé avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, s'il y a une preuve que l'égalité n'est pas acquise, c'est qu'il faut avoir fait trois fois le tour du monde avant tout le monde pour avoir le droit de prétendre être une Française qui mérite le respect. Bah en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y avait aussi une idée de pluralité aussi, de pas se perdre un peu dans l'héroïsation individuelle, parce que du coup si on glorifie seulement le destin d'une personne, si par malheur un jour on apprend que cette personne n'est pas parfaite et les humains ne sont pas parfaits, et bien tout s'écroule. Et on se dit, oh non, cette figure incroyable que j'admirais, bah du coup, je ne peux plus l'admirer parce qu'à un moment dans sa vie, elle a dit tel truc que je récuse absolument. Ou alors, voilà, elle a tenu des propos à un moment dans sa life auxquels je ne peux absolument pas souscrire. Et donc, du coup, bah, ça détruit un petit peu l'image très glorieuse qu'on avait de cette personne-là. Et limite, ça vient invalider tout ce que son existence prouvait. Et ça, c'est trop dommage. Et d'ailleurs, on ne peut pas se tenir à ce standard-là de perfection. Et d'ailleurs, on ne tient pas les hommes à ce standard-là de perfection. Et donc, du coup, raconter un peu l'histoire des femmes dans leur pluralité et sortir de cette glorification individuelle, de cette espèce d'individualisme héroïque, c'était super important pour nous.
Et en fait, bravo. Et on part aussi, il n'y a pas que nous deux, on part du constat que comme les femmes, c'est la moitié de la population, la moitié de l'humanité. On en avait... Alors vraiment, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand on nous dit c'est un livre plein d'anecdotes. ou alors vous avez trouvé des femmes d'exception. Alors nous, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est justement montrer que les femmes ne sont pas anecdotiques, que les femmes ne sont pas une minorité, que notre livre n'est pas une niche, des choses qu'on a pu entendre. Même si c'est un livre féministe, et on le revendique comme ça parce que c'est ce qu'il est de fait, il l'est de fait, mais en réalité, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un livre pour remettre la justice dans l'histoire. C'est un livre d'histoire, avant tout, et c'est un livre qui est pour, en fait, de mon point de vue, et je pense comme Blanche, nous, on travaille pour la vérité, en fait. C'est un grand mot, mais on veut remettre un peu de vérité dans le discours, et que les femmes ne sont pas minoritaires, mais elles sont la moitié, donc elles doivent être partout, tout le temps.
Alors moi, j'aimerais revenir sur une période qui m'a marquée. C'est donc au début du XVIIe siècle avec la création de l'Académie française. Parce que bon, on parle beaucoup dans les luttes féministes actuelles de l'écriture inclusive, du fameux « le masculin l'emporte sur le féminin ». Et quand on essaye justement de porter ce combat-là, on nous dit actuellement que non, que c'est une règle, c'est comme ça, que le masculin est neutre, ça a toujours été, et que de toute façon, il faut une règle. Donc bah voilà, on laisse cette règle-là. Sauf qu'en fait, il y en a beaucoup qui ignorent que non, ça n'a pas toujours été comme ça, et qu'avant, à l'époque, notamment au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de... Bah, déjà, c'était l'accord de majorité, l'accord de proximité qui valait. Et que, donc justement, avec la création donc, de l'Académie française en 1635, ils ont déclaré que le masculin l'emporterait sur le féminin parce que le masculin était plus noble. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je trouve que c'est important, justement, de rappeler ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette période ?
Bah, vous avez déjà dit le principal. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, la langue française, il n'y a pas de règles strictes. Les gens l'écrivent un peu comme ils veulent. Hein. Même les grands auteurs français n'écrivent pas tous de la même manière. Et puis, il ne faut pas oublier que le français ne s'impose pas. Il y a plein de régions où c'est pas le français, donc la langue d'Oyle, comme nous, on la parle aujourd'hui, si je puis dire. Il y a tout un tas d'autres façons de parler et tout à fait d'autres règles, voire pas de règles. Et donc, on accorde régulièrement, en effet, avec le nom approché, l'adjectif. Donc, si c'est féminin, bah, on accorde au féminin, etc. Après, il y a ce fameux monsieur Duplex qui essaye de faire une règle et qui dit, en effet, bah, ce que vous avez dit, voilà, le masculin étant plus noble, on va dire que c'est le masculin qui l'emporte. Mais en fait, cette règle-là, elle passe pas tout de suite. Et tout le monde continue à faire un petit peu, ils écrivent un peu comme, voilà, sans règle. Mais ce qui va vraiment fixer définitivement la règle, eh ben, c'est 1881, c'est quand les lois Jules Ferry rendent l'école obligatoire. Et ça, on peut pas dire, c'est super, mais pour les femmes, c'est pas super, parce qu'évidemment, là, à ce moment-là, cette règle, en fait, comme tous les enfants doivent suivre l'éducation qui devient obligatoire, il faut que tout le monde ait le même enseignement. Et là, on va inscrire dans le marbre, on va cristalliser cette règle, parce qu'il faut en choisir une, que de toute façon, le 19e siècle est très misogyne, que Jules Ferry, a priori, il a été aussi un peu misogyne, on va dire. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il se dit, c'est celle-là qu'on va prendre. Et puis, c'est celle-là que tous les enfants, les garçons et les filles de toute la France, puisque c'est le français qui s'impose, le breton n'est plus parlé, etc. On impose le français, on impose toutes les règles du français, et cette loi, elle passe comme obligatoire, finalement. Avant, elle ne l'était pas.
Merci. Alors peut-être, avant, parce que je vois l'heure qui tourne, vous aurez peut-être des questions à poser. Avant de vous passer le micro, je voulais revenir justement, donc vous parlez de l'histoire de France au féminin, mais c'est aussi une histoire du féminisme. On voit donc les débuts du féminisme, comment ça a évolué. Et je voulais revenir sur un post que tu as fait récemment sur Instagram, sur justement une bonne féministe est une féministe morte. Donc voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus pour expliquer ce propos.
C'est un peu un discours qui est courant chez nos détracteurs ou des gens qui se présentent comme féministes tout en ne l'étant pas sincèrement. C'est de dire que le féminisme tel qu'il existe aujourd'hui, il est dévoyé, il est contre-productif, que c'est plus ce que c'était le féminisme et que c'était mieux avant. Et en fait, ils vont citer une lutte du passé pour dire « Ah, mais elle, quand elle faisait du féminisme, c'était mieux ». Et en fait, ça, c'est une façon très commode de ne jamais nous soutenir, puisque soutenir les féministes qui sont décédées une fois que la lutte est gagnée, ça nous fait une belle jambe, ça nous aide pas vraiment. Et il y a fort à parier que si ces personnes-là avaient été contemporaines du vivant des féministes qu'ils prétendent admirer, ils ne les auraient absolument pas soutenues. Il suffit de retracer en fait l'histoire des luttes féministes et de voir comme elles étaient conspuées à l'époque où elle défendait ses combats, pour se rendre compte que cet argument est complètement fallacieux et très malhonnête intellectuellement. Et d'ailleurs, on a dit la même chose aux féministes du passé, c'est-à-dire que les féministes du MLF, celles qui se battaient pour l'accès à la contraception et le droit à l'IVG, elles étaient vilipendées et comparées aux féministes précédents en disant « Ah, mais au moins les suffragettes, elles savaient bien revendiquer des droits, etc. » Et pourtant, les suffragettes, elles faisaient de la désobéissance civile, elles faisaient des arts martiaux, je ne rigole pas, elles faisaient des prises aux policiers anglais qu'elles mettaient au tapis quand ils voulaient les empêcher de manifester, elles cassaient des vitres, elles posaient des bombes. Elles n'ont jamais tué personne, elles posaient des bombes dans des bâtiments vides, mais enfin c'était quand même un autre degré d'activisme et de militantisme. Le MLF n'a jamais posé de bombes nulle part. Et pourtant, elles étaient vues comme trop extrémistes, comme hystériques, par rapport aux bonnes féministes qui se battaient pour le droit de vote. Et les féministes qui se battaient pour le droit de vote, je vous laisse imaginer ce qu'elles se sont pris dans la figure quand elles ont osé revendiquer le fait de faire partie de la société civile et de prendre part à la vie publique comme ça. Et donc du coup, on est toujours comparé à meilleure militante que soi et toujours au passé. Et donc, du coup, pour nos détracteurs, il n'y a pas de bonne manière d'être féministe, sinon d'être au Panthéon. Et ça, c'était... Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'était édifiant quand on a inscrit l'IVG dans la Constitution il y a quelques semaines, parce qu'en fait, on avait tout le Congrès, mais tout le spectre politique de LFI et du NPA jusqu'à l'extrême droite et Zemmour qui se revendiquaient de l'héritage de Simone Veil. Je veux dire, on a un parti cofondé par des nazis qui revendiquaient la mémoire d'une rescapée de Auschwitz. On est dans ce degré-là de malhonnêteté intellectuelle. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment un bon exemple. Gabriel Attal aussi, qui cite le MLF, qui dit oui, merci aux femmes du MLF, etc. Mais frère, t'étais où en fait au moment où il y avait vraiment besoin de défendre cette parole-là ? C'est un peu facile de dire bravo une fois qu'elles sont enterrées. Donc voilà, moi, c'est ça, c'est aussi pour ça que notre histoire de France, je pense, est un outil important, c'est parce qu'on peut voir de quelle lutte on est les héritières et voir aussi, parce que c'est une histoire du féminisme, mais c'est aussi une histoire des discours réactionnaires qui ont été opposés au féminisme. Et donc on a mon petit personnage de Jean-Michel misogyne. Alors c'est pas mon petit Jean-Michel patriarcat qui est dans Mythes et Meufs, parce que ça c'est mon perso qui est fictionnel et qui avait pas lieu d'exister dans cette BD-là. Pour autant, on a un peu à chaque époque des petits personnages qui rendent compte de la misogynie de chaque époque avec les clichés, les petites phrases assassines, voir carrément les traités et les lois qui sont rédigées et qui sont votées ou promulguées à certaines périodes et qui sont tout à fait détrimentaires pour le droit des femmes. Et ces petits personnages, je leur ai fait tous un petit peu un air de famille avec un petit visage disgracieux pour faire un espèce de fil rouge du patriarcat en fait de siècle en siècle. Et ça, c'est important aussi d'avoir cette histoire-là, je pense, et de pouvoir décrypter le discours, la machine misogyne à l'œuvre à travers les siècles, pour ne pas être dupe en fait des discours qu'on va invariablement nous resservir, même aujourd'hui. Et j'ai fait un autre petit post aussi qui reprend un tout petit peu la même idée, mais pas tout à fait, où on parle en fait des luttes sociales. C'était un post pour le 1er mai de l'année dernière. Et où en fait on voit que les femmes ont pris part à tous les grands moments de chamboulement social et à tous les grands mouvements sociaux, du coup notamment à gauche, et qu'elles étaient très souvent les premières à souffrir, et à souffrir bien plus, de toutes les revendications qui étaient énoncées par ces mouvements, et qu'elles n'ont, leurs revendications à elles spécifiques n'ont pas du tout été prises en compte, et qu'elles se sont retrouvées évincées de chaque grand mouvement social auquel pourtant elles prenaient part. Il y a quantité d'exemples, on a toute une partie sur la Révolution française où c'est édifiant, où en fait elles sont complètement squeezées de la Déclaration des droits de l'homme et complètement complètement évincé en fait de la vie civique dès que le Premier Empire et le Code Napoléon est promulgué. Mais on a un peu plus tard la Commune de Paris, rebelote, elles prennent part au combat, elles prennent part au débat, et elles sont caricaturées comme les méchantes pétroleuses qui sont encore une fois extrémistes, vulgaires, et elles sont encore une fois, leurs revendications ne sont pas entendues. On a la même chose un petit peu plus tard avec le Front Populaire, on a la même chose un petit peu plus tard avec mai 68, et en fait ça se répète, ça se répète, ça se répète, et bah voilà, il y a question aussi de faire l'étude de nos propres mouvements sociaux et de se dire bah pourquoi est-ce que les femmes y sont jamais prises en compte correctement, et en fait c'est aussi de ça que le MLF est né. C'est-à-dire que mai 68 était tellement viscéralement sexiste qu'il y a eu besoin de réunions en non-mixité et qu'il y a eu besoin en fait de politiser la question des femmes et les femmes seulement. Et donc, tout ça pour dire, désolée, c'est un peu une réponse très longue, mais que faire de l'histoire, c'est aussi se donner du pouvoir dans le présent. Et que c'est justement en se rappelant de ce qui a été dit, même contre nous, par le passé, qu'on peut être plus outillé pour mener les combats aujourd'hui. Et tu vois, tu parlais de l'écriture inclusive. Aujourd'hui, on est des maxi hystériques et genre, on est plus extrême parce qu'on dit IL ou parce qu'on dit auteurice que des femmes qui faisaient des avortements clandestins avec leurs outils de cuisine. Juste dire ça, ça paraît fou en fait. On est en mode, mais c'est quoi votre curseur de l'extrémisme? Donc voilà, pour moi, le mythe de la féministe hystérique, il est vieux comme Aristote et il faut, c'est bien de le savoir.
De toute façon, dès qu'on essaiera de glaner des nouveaux droits, c'est ce qui nous opposeront toujours comme argument. Voilà, merci pour cette explication. Alors... Alors, on va faire passer un micro dans le public. Alors, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà préparé des questions. Alors,
le micro, il est là.
Alors. Là, il y a une question ici.
Oui, bonjour. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle. Donc déjà, ça veut dire que vous avez du travail à faire. Et je vous remercie, je vous félicite. J'ai été approché par une chercheuse en littérature jeunesse et qui était docteur et qui a fait une thèse sur les stéréotypes. Et pour mettre à mal les stéréotypes qui participent à l'éducation des enfants. J'ai demandé combien ils étaient en France. Elle m'a dit, je crois être une des seules. C'est vous dire l'étendue du chantier qu'il y a à faire. Donc je pense que tout le système devrait être un reset total. C'est de reprendre les choses à zéro et de repartir vers des générations, plus jeunes que la mienne, parce que nous, on est ancrés dans des habitudes. Moi, quand j'emploie le mot autrice dans une interview, puisque je fais des interviews radio, je me fais engueuler par les gens. Je dis, mais pourquoi vous parlez le féminin? J'ai l'impression d'être un harki de la condition masculine. Alors, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce qui est très bien dans votre livre, c'est d'avoir mis à jour des personnages, je crois que... D'ailleurs, vous ne les avez pas toutes mises, hein, parce qu'il y en aurait d'autres. Hein. Vous avez été obligé de faire des choix, j'imagine.
C'est ça, exactement. Et c'est bien que vous le signaliez, parce que... Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on va trouver beaucoup de femmes sur les périodes récentes? Oui, mais sur les périodes anciennes, on va peut-être avoir du mal, etc. Et en fait, les femmes ont tellement été invisibilisées que quand on cherche, on les trouve dans les chartes des femmes. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait la loi comme quoi le mari avait le droit de corriger sa femme. Alors, c'était des lois par région, hein. Donc, c'était pas dans toutes les régions, mais il y avait cette loi de correction. Et les femmes faisaient des procès. Parce que la loi de correction disait que l'homme avait le droit de frapper sa femme, de la corriger, mais pas de l'estropier ou de la tuer. Et quand la femme se sentait trop en danger, donc, on sait, dans les archives, on voit toutes ces femmes avec leur nom, avec leur profession, elles font des procès. On voit aussi les femmes apparaître dans tout ce qui est dans les héritages des châteaux, des châtelaines qui ont déclenché des guerres ou qui payaient ou qui rendaient justice. Et donc, finalement, contre toute attente, en cherchant, moi, je me suis retrouvée avec plus de femmes que prévu. Et en fait, pas mal, beaucoup. Et puis ensuite, on a fait un choix. Déjà, quand même, les femmes un peu incontournables. Des femmes qui méritaient d'être connues et qui ne l'étaient pas assez à notre goût. Et puis après, comme on l'a dit déjà, toutes les anonymes. Mais en fait, il y en a bien plus que ce qu'on a bien voulu nous dire. Hein.
Alors moi, si c'est possible, j'aurais 3 questions. Mais
pas de soucis.
Je peux réduire. Alors, ma première question, elle est pour toutes les deux, et vous avez déjà un peu commencé à y répondre tout à l'heure. Ce serait de savoir un peu plus dans le détail d'où vient votre éveil féministe et s'il y a eu éventuellement un déclic. Parce que comme vous l'avez très bien dit, il y a eu un moment donné où, en tout cas, on a à peu près le même âge, on a eu une adolescence où c'était un peu ringard d'être féministe. Et puis, il y a eu un moment donné où, au contraire, c'est devenu vraiment l'inverse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un déclencheur pour vous deux?
Bon, je vais commencer, puisque comme vous le voyez, on n'est pas de la même génération. Et donc, du coup, on n'a pas la même histoire du tout. Hein. Donc moi, j'étais ado dans les années 80, et je ne suis pas née féministe. Hein. Et je savais, moi, quand j'étais étudiante, pour moi, en effet, c'est ce qu'a dit Blanche, c'était plus réellement une question. Moi, je n'ai jamais été empêchée... de ce que j'ai vu, hein, de ce que je percevais, je veux dire. Je ne me sentais pas empêchée. Alors, on ne va pas revenir sur ce que monsieur a dit, parce que j'étais victime de tout un tas de stéréotypes, mais je ne m'en rendais pas compte, en fait. Et puis, et j'allais à l'université. Il y avait des filles, donc j'étais à l'université, j'étais à la Sorbonne, en histoire. Les filles n'étaient pas du tout empêchées. J'avais des copains garçons, des copains filles. Et tout ça me semblait très normal. Mais le fait que tous mes profs d'université soient des hommes, quasiment, j'avais une seule femme... qui était Hélène Arweiler, qui donc donnait des cours. Sinon, tous les autres dans les amphis étaient des hommes. Et à l'époque, ça ne me choquait pas. Ça ne m'interrogeait pas spécialement. Et donc, je ne suis pas née dans une famille spécialement féministe. Et ils ne m'ont jamais rien empêché non plus. Je n'ai pas eu de catastrophe particulière. Mais voilà, c'était famille traditionnelle, avec mon papa très traditionnel, voilà. Et donc, moi, c'est venu petit à petit, hein, et c'est vraiment progressif. Hein, et c'est venu, moi, je dirais qu'à peu près jusqu'à mes 30 ans et jusqu'à mes premiers enfants, tout me paraissait nickel. Hein, et alors après, tout m'a paru pas nickel du tout. Là, après, j'ai commencé à voir plein de trucs qui n'allaient pas dans le monde du travail, les réflexions que j'avais, le fait que quand un enfant était malade, on m'appelait moi directement, jamais mon mari, parce qu'on pouvait pas le déranger, parce que lui travaillait, alors que moi, bah, je travaillais aussi. Et j'ai commencé à enchaîner comme ça les déconvenues, et donc c'est venu crescendo. Et puis au fur et à mesure, voilà. Au début, l'histoire, j'étais pas dans l'histoire des femmes. Je faisais plus les guerres. Donc en fait, je pense que pour s'intéresser à un sujet, il faut vraiment le travailler. Et tant qu'on le travaille pas vraiment, c'est pas si évident que ça. Et puis donc voilà. Et puis mais maintenant, pour moi, c'est bien bien évident.
Et moi, c'est un parcours un peu différent, mais aussi aussi progressif. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est un peu hors sujet, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 11 ans. La personne qui m'a renversée avec sa caisse était tout à fait en tort. J'ai porté plainte. Ma plainte a été classée sans suite très rapidement. La police m'a dit que je mentais et a cru le conducteur. Et ça, donc j'avais 11 ans. Et donc j'ai fait mon entrée en 6e comme ça. Et je pense très sincèrement que la conscience précoce de cette énorme injustice, que j'ai mis des années de chirurgie déjà, parce que j'étais très blessée par cet accident, et puis de thérapie aussi, à avaler, ou plutôt à processer, ça rend plus lucide sur d'autres formes d'injustice. Et je pense qu'il y a eu vraiment ce shift-là dans ma vie très jeune, où ensuite j'étais très en colère pendant très longtemps, et du coup la moindre chose qui me paraissait être injuste par rapport à une autorité établie, bon typiquement la police, hein, ça s'est pas arrangé mes rapports avec la police, mais aussi l'autorité étatique, tu vois, une forme d'ordre d'établi qui dictait un ordre complètement injuste de manière complètement arbitraire, ça m'a révoltée très vite. Après, dans mon adolescence, c'est là où ça devient progressif, on m'a beaucoup emmerdée. J'ai été beaucoup harcelée dans la rue, je suis née, j'ai vécu, j'ai grandi à Paris. Je suis allée au collège toute seule
très vite. J'ai pris le métro très jeune. Et donc, du coup, bah, le fait que dès qu'il y a un décolleté ou une jupe, on se prend des remarques, on se fait reluquer, on se prend des sifflements, ça, j'y étais très sensible. Et l'école aussi m'a aussi beaucoup saoulée. Alors que j'ai fait ma scolarité dans le public, vraiment de la maternelle jusqu'à la terminale, jusqu'à toute la fac, en fait, enfin, toutes mes études, quoi. Où j'étais jamais habillée comme il fallait, quoi. C'était, ça allait déconcentrer les garçons. Il y a une matinée en quatrième où on m'a renvoyée chez moi. J'ai raté une matinée de cours entière parce que j'avais des trous dans mon jean et que c'était jugé indécent. Et on m'a dit, on peut pas vous laisser aller en cours de maths comme ça parce que les garçons vous matez, ça va les déconcentrer et ça va les empêcher de se concentrer sur leur cours de mathématiques. Donc rentrez vous changer. Donc moi, je pouvais perdre une matinée de cours, mais eux ne pouvaient pas souffrir un jean avec des trous pendant une demi-heure de maths, quoi. Donc ça, c'était... j'étais furieuse de ça. Et comme j'avais déjà une grosse prédisposition à être vénère, eh ben, ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et puis après, est venu le temps de la lecture. Et j'avais beaucoup de débats avec mon papa, notamment, sur le pourquoi du comment, le féminisme, etc. Parce que du coup, j'étais sensibilisée, voilà, aux inégalités de genre... par rapport à mon expérience personnelle. Et il m'a offert, pour mes 18 ans, le deuxième sexe. En me disant, tiens, comme ça, ça alimentera encore plus nos débats. Mais ça, c'est mon papa. Hein. Il est pas d'accord avec moi, mais il va m'offrir les armes pour le contredire. Et donc, du coup, j'ai lu. C'est un merveilleux cadeau de 18 ans. Incroyable livre. Ça m'a ouvert plein de portes. Et ensuite, j'ai fait un Erasmus à Madrid quand j'avais 22 ans. Et j'ai fait le 8 mars là-bas, notamment. Et le 8 mars à Madrid, c'est autre chose. C'est vraiment un délire. Le féminisme espagnol, grosso modo, il a 10-15 ans d'avance sur le nôtre. Vraiment. Nous, on est là, on vient encore de se faire refuser à l'Assemblée le congé menstruel. Eux, ils ont voté la PMA pour les personnes trans. Enfin, vraiment, on est dans une autre stratosphère. Et donc, du coup, bah, le 8 mars là-bas, la grève féministe là-bas, c'était un vrai choc parce que c'était très spectaculaire, très impactant. Et je me suis dit, OK, il faut faire la même chose. Enfin, il y a vraiment un enjeu. Et donc, tout ça, en fait, toutes ces petites étapes, ça fait partie de ma formation. Donc, voilà, moi, le déclic, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas un jour, on se réveille et on est tout d'un coup hyper militante. Ça s'est fait petit à petit avec plein d'expériences de vie que j'ai mélangées à de la théorie. Quand j'ai commencé à vraiment à me documenter et à voir ce que d'autres avaient dit, à redécouvrir des trucs que j'ignorais totalement, qui avaient été dit justement dans les années 50, dans les années 70, etc. Et puis après, la dernière étape, ça a été le militantisme de terrain, donc la désobéissance civile, rencontrer d'autres militantes de mon âge, échanger avec elles, faire des actions avec elles, plus avoir peur d'enfreindre la loi. Alors à petite échelle, en faire des collèges, c'est vraiment une toute petite infraction, mais plus avoir peur de revendiquer qu'on avait une légitimité à refuser un certain ordre établi qui était extrêmement sexiste. Et on va dire que la ultimate étape, c'est écrire des livres féministes. Donc voilà, nous y sommes.
Merci beaucoup. Ouais, je peux les poser en même temps. Ok, merci beaucoup. Alors, première de deux questions, c'est par rapport au milieu scolaire. Vous avez dit que vous aviez fait la promotion dans les milieux scolaires et du coup, je voulais savoir comment la BD avait été reçue auprès des scolaires. Et puis l'autre question, alors c'est plus pour Madame Mirza, c'est dans le champ disciplinaire de la recherche, est-ce que vous considérez du coup que ce que vous faites là s'inscrit dans les études de genre ou est-ce que c'est plus de la médiation, de la vulgarisation ?
Bon, je vais répondre déjà à la deuxième. Moi, je considère que c'est plus de la médiation. Alors, pour être très stricte, moi j'ai fait mes études en histoire, mais si vous parlez à des universitaires et des historiens, ils considèrent plus que je suis historienne puisque je n'ai pas de sujet actuel de recherche et que en fait je prends, à part de temps en temps, quand vraiment je me retrouve à chercher dans des chartes, mais en fait je ne fais pas de thèse et je ne suis pas directrice de thèse et je n'enseigne pas, je ne suis pas chercheur au CNRS, etc. Donc oui, je fais surtout de la médiation et moi c'est ce que j'aime. Parce que j'ai fait donc mes études d'histoire. Quand on fait des études d'histoire, globalement, à 99%, vous passez le CAPES ou la GREG et vous êtes prof d'histoire. Et il se trouve que moi, j'ai un diplôme de journalisme, parce que je voulais être journaliste, et finalement, j'ai atterri dans l'édition. Et j'ai été salariée au départ dans l'édition, et après, j'ai commencé à écrire. Et je suis revenue à mes premières amours, à l'histoire. Mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est transmettre. Donc, bah, j'aime chercher aussi, hein, c'est clair. Mais ce que j'aime, c'est la médiation, c'est essayer vraiment de communiquer et de rendre la connaissance au plus grand nombre. Donc je ne sais pas si ça répond à la voilà. Et donc bah du coup rendre la connaissance au plus grand nombre, je considère que c'est bien. Alors je ne peux pas faire que ça parce qu'il faut aussi que j'ai le temps d'écrire, mais de passer dans les collèges et les lycées, voir les médiathèques, etc. Et en général, je suis toujours très bien reçue. Mais c'est un peu normal parce que quand je suis appelée par le professeur, c'est un professeur qui est déjà sensibilisé. Ça fait partie finalement d'un projet, soit du professeur, soit d'un projet d'école. Et souvent, ils ont déjà travaillé sur le sujet, voire sur le livre lui-même. Et donc, évidemment, quand j'arrive, en général, c'est déjà dans un projet global où les enfants, les jeunes ont déjà des questionnements. Voilà. Mais en effet, souvent, j'ai des garçons qui sont moins convaincus que les filles. Il y en a, le livre leur tombe un peu des mains quand même. Et puis ils me disent, oui, bah voilà, comme quoi ça ne les regarde pas. Donc, mais après, quand on commence à en parler, souvent, moi, je trouve que les réactions, bon, il y en a qui, bon, il peut y avoir un peu toutes sortes de réactions dans une classe, hein, mais certains sont quand même très sensibles à l'injustice. L'injustice au sens général, l'injustice faite aux femmes, ça parle quand même à des garçons aussi. Et c'est pour ça que dans ce livre, on parle d'hommes qui ont été féministes et qui ont soutenu la cause des femmes. Donc bah justement, comme Victor Hugo, comme Nicolas de Condorcet pour les plus célèbres. Et donc bah les garçons comprennent que vouloir la vérité et la justice, ça n'a pas de sexe en fait. Donc ça, ils arrivent. Mais après, j'entends aussi quand même des discours... où il y a des garçons dans les collèges qui, eux, ont plutôt le sentiment que les filles sont favorisées dans la société. Moi, j'entends des discours de garçons qui disent « Les filles sont traitées comme des princesses, elles ont tout ce qu'elles veulent, et puis nous, on leur fait la galanterie, et puis nous, on leur offre les repas au resto. Les filles sont des reines, des princesses, et c'est nous qui ramons. » Et du coup, j'entends aussi ça de jeunes garçons, et du coup, il faut leur expliquer un petit peu les femmes, comment elles ressentent les choses et comment elles les vivent. Et il suffit de parler, par exemple, de parler d'écart de salaire, de leur dire qu'à un même poste, les femmes sont payées, je crois que, bon, tout confondu, je crois que c'est 23% en moins. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc, leur dire qu'elles ne peuvent pas avoir les mêmes carrières, qu'elles ne peuvent pas accéder au même poste, qu'il y a un plafond de verre. Et après, leur citer des exemples concrets qu'ils ignorent, en fait. Voilà.
Je voulais savoir quelle place vous donnez à l'intersectionnalité dans votre combat féministe, notamment pour des questions ethniques et ou d'orientation sexuelle, par exemple, ou même religieuse aussi. Voilà, si ça vous intéresse.
Une place de choix, pour moi c'est hyper hyper important, non seulement parce que c'est aussi être plus juste que de se soucier de toutes les tranches en fait de femmes et de personnes qui sont impactées par les stéréotypes sexistes, parce que on va pas vivre le sexisme de la même manière si on est un homme trans, si on est une femme noire, si on est quelqu'un qui est dominé dans le champ social, donc si on est précaire, ou au contraire si on est né dans un milieu très privilégié. En fait, c'est des problématiques qui vont pas du tout nous impacter de la même manière, et je pense que la spécificité de chacune de ces strates nous aide à déconstruire le système de nomination qui lui est global. Et donc du coup c'est hyper important de pouvoir croiser cette espèce de constellation en fait de points de vue. Et non seulement c'est plus juste et puis c'est plus intéressant, mais c'est aussi plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intersection, pas seulement dans les vécus, mais aussi dans les systèmes de domination. Et en fait, c'est presque une chance, même si c'est aussi extrêmement regrettable, parce que du coup, on peut enclencher un effet domino. C'est-à-dire que comme nos oppressions reposent sur des bases qui sont similaires, si on commence à endommager les fondations de l'une, on va aussi commencer à faire boiter l'autre. Et c'est pour ça, en fait, que l'intersection et la convergence dans nos manières de lutter, elles sont hyper hyper nécessaire parce qu'il y a une convergence des oppressions, vraiment. C'est pour ça que faire des ponts entre les luttes, comme avec l'écoféminisme par exemple, et comme c'est un petit peu ce que je disais aussi quand je mettais en balance les progrès sociaux et le fait que les femmes avaient été évincées de la lutte sociale. En fait, on peut être très à gauche et très marxiste-léniniste ou très anarchiste et super sexiste. Et en fait, cette intersection d'idées qu'on pourrait qualifier comme progressistes, c'est progressiste d'être féministe, c'est progressiste d'être marxiste, au pif, hein. Mais en fait, on peut défendre une idéologie tout en opprimant quelqu'un d'autre. Et c'est exactement pareil pour ce qu'on appelle le white feminism. Ça ne veut pas dire les blanches qui sont féministes, ça veut dire le féminisme blanc. C'est une distinction hyper importante parce que ce n'est pas les blanches qu'on va invectiver, c'est plutôt une manière de penser qui construit l'émancipation de certaines sur le travail invisibilisé de certaines autres. Et du coup, c'est un peu une impasse de la pensée parce que opprimer des femmes pour libérer des femmes, ça ne marche pas. C'est pas féministe en essence, en substance. Mais si on a compris ça, on peut se libérer du joug de ceux qui bénéficient de l'oppression et des femmes blanches et des femmes non blanches. Et spoiler, c'est toujours les mêmes. Et en général, ces personnes-là bénéficient aussi de l'oppression des hommes non blancs. Donc voilà, il y a des ponts à créer partout. Et je pense que si on n'est pas dans un féminisme intersectionnel, on arrive très vite à des impasses et on arrive très vite à reproduire des systèmes de domination qui ne sont pas émancipateurs. Ni pour nous, ni pour personne, vraiment.
Dernière question, peut-être.
Plus qu'une question, c'est juste une remarque, parce que je trouve l'occasion est trop belle pour ne pas glisser dessus. Mais enfin, vraiment, l'intersectionnalité, vous avez parlé d'écoféminisme, et tout ce que vous avez dit mot pour mot, des 3-4 dernières phrases, on peut dire la même chose avec... c'est la même chose de lutter contre le sexisme qui oppresse les femmes blanches que de lutter contre le sexisme qui oppresse les femmes non blanches à travers les femmes blanches, que de lutter contre l'oppression de la nature, qui passe par l'oppression des femmes et des hommes non blancs, et des enfants non blancs d'ailleurs, ailleurs dans le monde qu'en Europe. Et bon, ben bah voilà, c'était juste... Genre, j'ai entendu le mot écoféminisme, je me suis dit, c'est le sujet que j'adore, c'est le moment. Et voilà, juste pour dire, je trouve ça glissait parfaitement vers l'écoféminisme, ce que vous avez dit. Donc c'était dommage de ne pas en parler.
Bah, on s'éloigne un tout petit peu du sujet de la bande dessinée, mais je crois fermement que les systèmes oppressifs sont les mêmes, en fait, et ils communiquent de la même façon. Et c'est aussi pour ça que je suis à Alternative à Paris, qui lutte pour la justice climatique et sociale. C'est que non seulement les systèmes de domination sont les mêmes, donc les leviers pour se libérer sont les mêmes, mais aussi, et ça pour le coup c'est très matériel, les premières à souffrir du dérèglement climatique, ce sont les femmes. Dans toutes les zones, dans tous les pays. Parce que ce sont les plus précaires, donc c'est celles qui sont le moins protégées. Parce que c'est celles qui ont le moins accès à l'alimentation, aux ressources. Donc quand les ressources viennent à manquer, c'est les premières à mourir de soif, à mourir de faim. Parce qu'elles n'ont pas la propriété de leur terre, elles n'ont pas la possibilité de cultiver. C'est aussi les premières à avoir leurs droits reculés quand il y a des situations de crise. Donc celles qu'on va priver de nourriture quand on a faim, c'est elles en premier. À qui on va supprimer les droits en fait, à l'éducation parce qu'il faut aller travailler au champ, parce que les ressources manquent, c'est elles en premier aussi. Donc en fait, il y a un vrai enjeu à ce que les femmes se saisissent aussi de la question du dérèglement climatique, parce qu'on va être les premières à trinquer. Et ça, pour le coup, c'est aussi maxi-intersectionnel, parce que quel que soit le pays et quelle que soit la société, nous, en France, du coup, c'est des inégalités salariales qui sont à hauteur de 30%. Dans d'autres pays, c'est l'accès à la terre et le fait de mourir de faim. Donc, c'est des ordres de grandeur qui sont bien évidemment hyper différents en fonction de la situation politique de chaque pays. Mais le dénominateur commun, c'est que c'est les femmes qui trinquent en premier. Donc, voilà, on a tout à gagner à essayer de se saisir de ces enjeux par un biais ou par un autre.
Non, voilà, je voulais que vous disiez avec vos mots comme vous parlez mieux que moi. Mais voilà,
c'est ça. Alors, pour terminer, juste une dernière petite question très rapide. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous avez des projets sur le feu ou pas?
Donc, on a des projets. Alors, dans un premier temps, on a des projets séparés. Comme ce livre-là, je l'ai dit, marche très très bien. En histoire, moi, on m'a proposé d'en faire un deuxième. En fait, Casterman, là, ça je peux le dire, ils vont sortir... Alors, c'est une autre équipe, parce qu'en fait, il faut 2 ans. Donc, en fait, il y a une autre équipe, une autre scénariste et une autre dessinatrice qui vont sortir cette année l'histoire de l'art au féminin. Et du coup, bah moi, dans 2 ans, va falloir être très patient. Je vais sortir avec une autre dessinatrice parce que Blanche est sur un autre projet dont elle va vous parler juste après. Donc moi, je vais faire un autre projet donc avec une autre dessinatrice et ça va être l'histoire des sciences au féminin. Et là, ce sera les sciences dans le monde, hein, pas seulement la France.
D'accord.
De la préhistoire à nos jours. Voilà.
Très intéressant. Voilà. Merci.
Et moi, je commence à peine à me pencher sur une nouvelle BD qui va être en plusieurs tomes et qui va être cette fois-ci dans un univers fictionnel. Donc, je laisse un petit peu la BD documentaire qui est 100% de ce que j'ai fait jusqu'à présent pour me lancer dans une épopée en plusieurs tomes. Ça va prendre place dans un univers d'inspiration médiévale, mais fantastique, donc avec de la magie, des sorcières, des dragons, des rois, des royaumes. Et ça, évidemment, défendra les idées qui sont toujours les miennes et qui infusent dans tout mon travail, qui sont défense de l'environnement, droits des femmes et justice sociale, mais par le biais d'une histoire qui est racontée et qui, j'espère, va vous embarquer dans une épopée chouette et aussi faire réfléchir sur des problématiques contemporaines, parce que j'adore le Moyen-Âge. Je suis trop contente que l'histoire de France au féminin réhabilite un petit peu cette période injustement décriée par les misogynes du 19e. Et je pense aussi que les inégalités sociales étaient quand même tellement exacerbées par le passé que c'est un bon décalage pour parler de sujets qui sont encore énormément d'actualité. Et parce que je voulais quand même faire une super référence féministe à une autrice du vrai Moyen-Âge que j'aime beaucoup, ça va s'appeler La Cité des Dames. Voilà.
Eh bien, on va suivre ça de très près. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.